Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Maurice Chikuya Kayembe. Il est administrateur directeur général de l'Institut National des Préparations Professionnelles INPP. Monsieur Chikuya, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
C'est un plaisir pour moi aussi de répondre à votre invitation.
Merci d'être venu et donc avec vous dans notre entretien, nous parlerons de vous, de votre personne. On va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde. Mais nous parlerons également de cet Institut National des Préparatifs Professionnels que vous gérez. Vous êtes à la tête de l'INPP depuis 2004, si je ne me trompe pas.
Décembre 2004, oui.
Ça fait 9 ans aujourd'hui que vous êtes...
Oui, ça fait 9 ans que je suis à la tête de l'INPP.
Alors, avant de parler de l'INPP, on va commencer par une brève biographie de votre personne. Dites-nous, vous êtes né où et quand?
Oh, je suis né à Lubumbashi le 8 novembre 1961.
Lubumbashi, c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
Oh, je n'ai pas passé mon enfance à Lubumbashi. J'ai pu regagner mon Kasaï natal où j'ai passé mon enfance et mes études primaires et secondaires là-bas.
Kasaï oriental?
Oriental, effectivement, oui.
Vous avez fait quel genre d'études aux humanités?
Oh, j'ai fait les humanités pédagogiques.
Puis vous avez poursuivi l'université?
Oui, j'ai poursuivi l'université.
À Kinshasa?
À Kinshasa, et j'ai commencé avec l'Institut de bâtiments et travaux publics.
IBTP?
Et puis IBTP, et puis on a fermé l'IBTP, et j'ai fait l'ISC. Voilà, et après l'ISC, j'ai fait le management économique, DES à l'Université de Kinshasa, des spécialisations en emploi, formation, et puis management stratégique des entreprises en difficulté, et voilà tout.
Vous êtes économiste?
Oui.
Quel est le souvenir que vous allez plus marquer pendant votre enfance, pendant que vous grandissiez?
Ah, le souvenir qui m'a beaucoup plus marqué, c'est... la discipline de ma mère qui n'était pas aussi intellectuelle mais qui me poussait beaucoup plus aux études. C'est un grand souvenir pour moi parce qu'elle y est pour beaucoup de ce que je suis aujourd'hui.
Elle tenait vraiment à ce que vous puissiez faire des études, devenir un homme, comme
oui,
on le dit.
Oui, elle tenait à tout prix que je fasse les études malgré qu'elle n'avait pas beaucoup étudié, mais pour elle, elle tenait à cela. Et quand on voit l'environnement kassaïen, à ce moment-là, c'était beaucoup plus les jeunes gens qui allaient faire les diamants
et
consorts et sortir de ces milliers-là. Et ce n'était pas facile.
Ça ne vous a pas tenté un peu?
Ça ne m'a pas tenté parce qu'elle a créé une psychose en nous pour dire que les diamants, ça ne rapporte rien. Si vous allez au diamant, vous allez mourir, vous allez faire ceci, vous allez... C'est un travail d'ailleurs physiquement difficile. Et ce qui nous a poussé beaucoup plus à sortir du milieu collectif environnemental kassaïen.
Mais quand vos amis ou les jeunes du quartier comme vous revenaient avec des diamants, avec beaucoup d'argent, vous n'étiez
oui,
pas
ça,
tenté.
Oui, ça fait quand même un peu mal, d'autant plus que vous êtes jeune, vous voyez les autres venir en classe avec beaucoup de moyens, vous n'en avez pas et ça crée un peu de frustration, mais il faudrait avoir un moral fort, avoir l'attachement à ce que la maman me disait chaque jour, et ce qui m'a permis de dépasser les bornes et avoir le cap tenir jusqu'à ce jour.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
Oh, je n'ai pas grandi ni dans la misère, ni dans la pauvreté non plus, ni beaucoup plus riche. Mais dans des conditions...
Vous aviez les minimums.
Les minimums possibles. Oui.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, M. Chikuya?
L'hypocrisie. Ça, je n'aime pas. Je pense que dans la vie...
Vous avez vécu des choses qui ne vous ont pas plu, des gens qui venaient parler avec vous, mais derrière vous, ils racontaient autre chose?
Non, non, ce n'est pas surtout ça, mais parce que je trouve que nous sommes dans une société où les gens ont tendance parfois à flatter. Pendant que vous n'êtes pas dans le bon, ils vous disent que ça va, mon préso, tout ça. Mais derrière ça, c'est l'échec, ce sont des critiques.
En fait, si vous n'êtes pas, même si vous êtes dans l'erreur, on vous flatte et vous continuez dans cette erreur-là.
Vous continuez dans cette erreur-là. Je pense que ça, on rend un très mauvais service à la personne. Et je crois qu'il faut dire certaines choses comme il le faut, éviter l'hypocrisie parce que ça ne paye toujours pas.
Vous êtes marié, M. Maurice Chikuya?
Marié, père de 7 enfants.
Quel est votre plat préféré?
Oh, le plan préféré, c'est mon foufou avec...
Comme Kassaya, qui se respecte.
Avec l'Ipondou.
Avec les Matamba.
Matamba, je crois que c'est mon plan préféré.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui, Maurice Tshikuya Kayembe. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il est administrateur directeur général de l'Institut National des Préparations Professionnelles INPP. De Mbujimayi, vous êtes venu à Kinshasa pour vos études supérieures.
Ouais.
Vous êtes venu seul?
Oui, je suis venu seul. J'avais un frère aîné ici et qui travaillait à la FEC et qui m'a fait venir ici.
Comment vous avez trouvé Kinshasa lorsque vous êtes arrivé?
Ah, j'ai trouvé...
C'était quoi votre impression?
Mon impression, c'était une très grande ville et où je voyais beaucoup plus de gens. Les habitudes n'étaient pas les mêmes que ce que nous avions de l'autre côté. Ici, les gens semblent être trop pressés et parfois ils ne respectent pas les aînés. Et tandis que nous avons grandi dans la culture de respect des aînés, je crois que ça m'a beaucoup étonné de voir que on pouvait répondre à un aîné de n'importe quelle manière sans réfléchir deux fois.
La superficie de la ville déjà vous a impressionné, mais malgré ça, ce que vous n'avez pas apprécié, c'est le comportement du Quinois.
Oui, pas le comportement de tous les Quinois, mais de certains Quinois que je voyais qu'ils pouvaient répondre aux aînés sans pour autant faire beaucoup plus attention. Parce que nous, on nous a appris que l'aîné, c'est toujours un aîné, il faut le respecter, quel que soit son état physique, ses conditions matérielles, il faut toujours le respecter.
Vous vous êtes adapté facilement, c'était difficile au début avant de vous adapter à celle-ci.
Non, mais c'était difficile de m'adapter, mais ça m'a...
Ça vous a ouvert l'esprit?
Ça m'a ouvert l'esprit, non seulement ouvert l'esprit, mais j'ai évolué beaucoup plus dans le milieu studentaire, ce qui ne m'a pas permis de côtoyer beaucoup plus les milliers quinois, comme on l'a dit.
Alors qu'on dit que les étudiants, c'est des grands sorteurs, le week-end souvent?
Non, et écoutez, quand on est issu d'une famille qui vous demande beaucoup plus les résultats, et on s'est dit toujours qu'on est mandataire d'une mission spéciale. Et nous, quand on était venu ici, c'était juste pour étudier. Je vais vous dire que pendant toute la durée de mes études, je n'ai jamais participé ni au concert ni au match de football.
Pourquoi? Parce que ça ne vous tentait pas?
Non, ça ne m'a jamais tenté.
C'est par rapport à l'éducation que vous avez reçue?
Ça ne m'a jamais tenté. Et il faut toujours dire que on avait la pesanteur sur nous pour dire que quand vous allez au stade, la bagarre peut éclater là-bas, ça peut créer des problèmes. Si vous allez au concert, donc on a étudié, on est resté dans la famille chrétienne, disons. Et donc ce sont des principes de base qui nous ont été inculqués et que nous avons poursuivis.
Alors vous m'aviez dit que vous aviez commencé d'abord par faire l'IBTP. Quand on a fermé cet institut, vous êtes allé à l'ISC pour faire
les sciences commerciales et
les sciences commerciales
et financières. Ouais.
L'IBTP, c'est parce que vous rêviez de devenir architecte ou...
Oui, je tenais à tout prix à devenir ingénieur. On a fait de bonnes études. Malheureusement, à l'arrivée du président Mitterrand dans le temps, les étudiants de l'IBTP ont fait ce qu'ils ont fait. Et puis finalement, on a...
Racontez-nous, ils ont fait quoi?
Écoutez, on s'était... À ce moment-là, le maréchal était encore très fort, et le président Mitterrand descendait le Mont Galiema et les étudiants ont tourné le dos au cortège du président. Ils étaient maquillés à noir, tous avec torse nu, et puis ça n'a pas plu au maréchal. Et puis quelques temps après, ce sont les militaires qui sont venus nous rendre compte et puis ils nous ont tabassés.
En fait, c'était pour vous punir.
Ils nous ont puni sérieusement, ils nous ont tabassés.
Vous avez été aussi tabassé?
Oui, nous avons des cicatrices jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes allés jusqu'au niveau de la pépinière de Bandal où ça a éclaté encore davantage. Et à ce moment-là, il y avait Kwebe Kimpele qui était journaliste à la radio nationale et qui a fait une émission pour dire qu'il y a une balle perdue qui aurait tué un étudiant alors que c'était pas ça la vérité, et ça enflammait encore
les révoltait encore les
étudiants. Et c'était comme ça, et ça c'était des surchauffes impossibles. Et voilà, et on a fermé l'IBTP pendant qu'on s'apprêtait à devenir ingénieur. Tout a été arrêté.
Votre rêve a été
interrompu, et il fallait trouver d'autres alternatives. Et voilà ce qui m'a poussé vers les sciences commerciales et financières, l'économie, que je n'avais pas en tête.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait après avoir fait ces études de sciences commerciales?
Oui, je suis très satisfait, d'autant plus que ça ouvre beaucoup ces sont des études qui donnent des opportunités dans plusieurs domaines. Vous maîtrisez l'économie, vous maîtrisez les questions des ressources humaines, vous maîtrisez les marchés de l'emploi. L'économie englobe quand même beaucoup plus de disciplines qui poussent quelqu'un à être compétitif sur le marché.
Voilà, on va parler de votre carrière professionnelle avant d'être à la tête de l'INPP. Vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel?
Mon parcours professionnel, c'est dire que juste après mes études, j'ai commencé à travailler comme comptable à l'INPP.
Directement.
Donc, je n'ai jamais travaillé ailleurs qu'à l'INPP.
Donc, vous connaissez très bien la boîte?
Je connais la boîte. J'ai fait tout ce qu'il faut. Les chargés d'études, chef de service, chef de division, sous-directeur, directeur, tout ça. Toujours à l'INPP, jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à devenir le patron même, le chef de l'INPP.
Entre guillemets, le patron c'est l'État. Je ne suis que
mandataire. Le directeur. directeur général.
Oui, le directeur général n'est pas un patron de l'entreprise, il n'est que mandataire, il doit rendre compte à l'État.
C'est votre deuxième mandat à la tête de l'INPP?
Oui, c'est mon deuxième mandat à la tête de l'INPP.
C'est par rapport à vos compétences?
Je vous laisse le temps d'apprécier mes compétences. Je ne peux pas parler de mes compétences.
Non, vous pouvez nous dire si c'était par rapport à vos compétences que vous avez été reconduit ou il y a la politique qui entre dedans aussi.
Non, ça n'a rien à voir avec la politique parce que quand j'ai été nommé, je n'étais pas nommé parce que la politique y était, mais parce qu'il fallait trouver une solution à cette structure capitale pour le développement des compétences dans le pays, mais qui s'est recherchée depuis 40 ans. Et qui ne prenait pas de la lire pour pouvoir répondre aux besoins de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que les compétences ne m'ont pas donné l'occasion de faire sortir aujourd'hui l'INPP du Bourbier. Je crois que le fait de m'inviter ici prouve à suffisance que ce n'est pas l'INPP d'hier, ça a changé, c'est autre chose aujourd'hui.
Alors vous allez nous dire qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, juste pour dire que, rappeler un peu l'historique de l'INPP qui a été créé en 64.
Oui, l'INPP a été créé en 1964, il faut reconnaître qu'il y a eu le départ massif de nos partenaires belges qui occupaient beaucoup plus de postes techniques dans les filières, dans les entreprises et dans les industries locales. À leur départ, on a laissé ces entreprises à la merci des Congolais et qui n'avaient pas l'expertise appropriée pour pouvoir occuper ce genre de poste. Mm-hmm. Et c'est ainsi que le PNUD, sur demande du gouvernement congolais, a fait une étude pour voir quels mécanismes il fallait mettre en place pour former ces techniciens capables de répondre aux exigences de postes de travail. Et c'est ainsi que les PNUD et les BIT et les études ont abouti en 1963 pour pouvoir permettre la création de l'INPP le 29 juin 1964.
Et c'est comme ça que cet institut national a vu les jours. Les objectifs, brièvement, de l'INPP, c'était quoi au départ?
Au départ, ce n'était pas au départ.
Mais c'est quoi les objectifs de l'INPP?
Les objectifs de jusqu'à aujourd'hui, c'est la qualification professionnelle de la population active. Ça veut dire qu'il faut donner les compétences nécessaires à la population pour accéder à l'emploi. Parce qu'on y accède à on peut accéder à l'emploi que quand on a des qualifications professionnelles. Et il faudrait aussi collaborer avec le système éducatif national pour pouvoir mettre en place des contenus de formation technique appropriés aux besoins de notre économie. Je crois que ce sont là les objectifs principaux de l'existence même de l'INPP.
On peut dire aujourd'hui que toutes ces personnes qui sortent de l'INPP sont compétentes?
Je crois que vous pouvez, il y a une étude qui a été faite par l'Agence française de développement au niveau de la FEC. On a demandé un questionnaire qui a été adressé aux entreprises congolaises pour savoir les personnels techniques qu'ils emploient proviennent d'où pour la plupart des cas. On a trouvé que l'INPP était champion. Ça me fait plaisir de pouvoir que c'est un produit qui est apprécié.
Et donc après la formation, vous lancez ces jeunes sur les marchés de l'emploi ou bien il y a des entreprises qui viennent solliciter des gens auprès de vous?
Il y a les deux. Il y a les entreprises qui viennent les chercher directement. Il y en a qui vont solliciter les entreprises. Et il y a aussi l'entrepreneuriat que nous sommes en train de développer à outrance aujourd'hui parce que nous pensons aujourd'hui que les Congolais doivent apprendre à entreprendre parce que nous ne pouvons pas ne pas avoir une classe moyenne. Il faut créer des petites et moyennes entreprises et ne peut créer ces petites et moyennes entreprises que ces gens qui ont des compétences nécessaires indispensables à la création de l'entreprise.
Est-ce que ça se fait?
Oui, ça se fait, madame. Je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que on ne sait pas descendre, vous qui êtes des journalistes, descendre sur le terrain, voir ce que nous sommes en train de faire et prendre aussi les exemples des gens qui sont sortis de l'INPP, qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise que nous connaissons, que nous côtoyons, que nous encadrons davantage.
Et moi j'en connais aussi qui sont dans la rue hein, après avoir suivi une formation chez vous là.
À moins qu'ils n'aient pas pris, parce qu'il faut savoir que tout ce que nous pouvons faire, c'est une société qui accompagne l'individu. Mais si l'individu lui-même ne prend pas en priorité son destin, il ne prend pas avec beaucoup plus de valeur ce qu'il doit faire, et il y a la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous pour son destin et son avenir. Et je crois que tout ce que nous pouvons faire, c'est donner les compétences requises, nécessaires et indispensables à l'insertion socio-professionnelle de l'individu dans la société.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Maurice Tchikouya, KMB, ADG de l'INPP, celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Alors dites-nous, monsieur Tchikouya, vous vous limitez juste à la formation, pas à l'accompagnement.
Nous ne nous limitons pas seulement à la formation. Aujourd'hui, nous faisons des suivis après la formation. Nous voulons savoir les gens que nous avons formés, qu'est-ce qu'ils sont devenus et comment les aider à pouvoir s'insérer dans la société. Je crois que nous le faisons. Nous sommes en contact permanent avec la FEC qui est notre partenaire privilégié avec qui nous échangeons beaucoup plus pour voir comment nous pouvons nous organiser de façon que ces jeunes gens qui sortent de nos écoles puissent être engagés directement et auquel cas s'ils ne peuvent pas être engagés directement les aider à faire des pratiques professionnelles pour asseoir les compétences qu'ils ont reçues à l'INPP. Et je crois que ça, c'est indispensable. Il y a aussi, le chef de l'État venait de créer une structure de la microfinance. Je crois que cette structure-là, avant sa création, il y a eu des parts et d'autres des cogitations. Nous avons trouvé qu'ailleurs, cette structure est indispensable au développement des petites et moyennes entreprises. Et ça permet aux jeunes qui terminent dans des écoles techniques, dans les universités, et avoir des fonds de garantie pouvant leur permettre de se lancer dans les affaires. Et je crois que c'est important. Nous ne sommes qu'au début de ces dispositifs de sécurité, mais je pense que ça va aller beaucoup mieux.
Est-ce que vous avez des extensions dans les provinces?
Madame, aujourd'hui, l'INPP se retrouve non seulement dans les provinces, même dans les districts. Donc, nous sommes allés à une vitesse telle qu'au jour d'aujourd'hui, vous trouverez l'INPP, même et je prends l'exemple du Katanga, vous les trouverez à Lubumbashi, vous les trouverez à Likasi, à Kolwezi, à Kamina, à Kalemi, vous allez dans la province orientale de Bunia, Kisangani, Isiro et Aru. Donc nous nous rapprochons davantage des populations.
On ne fait pas trop allusion à ces extensions dans les provinces, on parle beaucoup plus de l'INPP à Kinshasa parce que c'est dans la capitale ou bien c'est là où il y a la direction générale.
Non, ce n'est pas parce que c'est là où il y a la direction générale, mais c'est parce que c'est le centre pilote et qui impulse, qui parvient à pouvoir contrôler tous les autres centres de formation qui sont à l'intérieur. Et c'est tout à fait normal que la capitale étant le miroir de la République, il est tout à fait normal que la direction provinciale de Kinshasa soit beaucoup plus en vogue par rapport aux autres directions provinciales. Mais quand vous allez au Katanga, vous n'allez pas le regretter non plus.
Alors vous encouragez les jeunes à venir suivre la formation chez vous?
Non seulement je les encourage, mais je les pousse. Et je pense que nous avons hérité de la colonisation un système d'éducation, un système d'enseignement qui était trop bureaucratique, et orienté beaucoup plus vers la bureaucratie. Mais la bureaucratie n'est pas un centre de production. La bureaucratie, c'est un centre de consommation qui n'ajoute rien et qui n'apporte pratiquement pas grand-chose quant à la création de la richesse nationale. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les jeunes puissent aller vers le métier et ça permet à ce que nous puissions avoir des agents de développement. Parce que quelqu'un qui a le métier, qu'il soit engagé dans une entreprise ou pas, il a la possibilité de s'installer à son propre compte, l'auto-emploi tel que nous le disons. Et ça, c'est faisable, c'est pratique, c'est ce qui pousse beaucoup plus les pays, d'autres pays à se développer. Plutôt que celui qui a terminé les universités et qui, aujourd'hui, les parents se sont dépensés et ont bousillé pratiquement toutes leurs bourses. Et le lendemain, il a un diplôme universitaire en histoire, en géographie, en droit ou en économie. Mais il devient une charge aussi supplémentaire pour la famille à la maison. Et il devient cambiste. Il n'était pas allé à l'université pour devenir cambiste. Mais un menuisier, un charpentier, un plombier, un carrelaire, il ne peut pas chômer. Voilà la différence, madame.
Alors, je veux prendre un cas. Je sais qu'à un moment, le gouvernement provincial avait emmené les enfants de la rue chez vous à l'INPP pour être formés.
Oui, le gouvernement provincial avait pris
en charge certains enfants de la rue.
Oui, mais ils sont encore en charge jusqu'à aujourd'hui parce que nous les faisons par promotion. C'est une initiative allouée du gouverneur de la ville de Kinshasa parce que le phénomène Kuluna où les enfants de la rue. Et au départ, c'était sur le boulevard. Chacun d'entre nous se disait, OK, on peut monter les vitres de sa voiture. Et les problèmes s'est limités. Mais aujourd'hui, ils nous poursuivent même à la cité, même dans nos maisons. Et par conséquent, c'est une bombe à retardement qu'il faudrait nécessairement à tout prix éteindre. Mais on ne peut pas l'éteindre. Si les gens ont fait de la délinquance leur source de revenus, il faut les faire sortir de la délinquance et leur donner une autre source de revenus. Et je crois que la seule possibilité de les récupérer, c'est l'apprentissage de métier.
Alors moi, j'avais rencontré certains jeunes hommes de la rue, et m'ont dit qu'ils ont suivi la formation. On leur a promis qu'après la formation, on leur trouverait de l'emploi dans des petites entreprises de la place. Et après la formation, on leur a remis le diplôme ou brevet. Puis on les a abandonnés.
Non,
je
ne pense pas parce que à la clôture de la première session de formation, le gouverneur de la ville de Kinshasa était venu avec des chefs d'entreprise qui ont pris séance tenante après la clôture de la session. Ces jeunes gens, il y en a qui sont engagés à l'OGEFREM, à l'OVD, à l'hôtel de ville même, chez Socimex. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris ces jeunes gens. Et les autres qui n'ont pas pu trouver de la place ont été récupérés par l'hôtel de ville. Et je vous ai dit ici que l'insertion socio-professionnelle revêt aussi de la discipline de personne de l'individu. On ne doit pas, quelqu'un, on vous dit, présentez-vous demain dans telle entreprise, vous n'y allez plus. L'entreprise ne va pas vous attendre. L'entreprise, c'est un secteur productif où on a besoin du travail au quotidien. Mais si vous n'y allez pas, on prend celui qui se présente.
Alors, on va souffler un peu avant de poursuivre notre entretien. Monsieur Maurice Chikuya, comment vous passez vos moments de détente quand vous n'êtes pas dans vos papiers? Comment vous vous détendez?
Ah, je me détends beaucoup plus avec ma petite fille. Je crois qu'elle me fait beaucoup rigoler. Je passe tout mon temps avec elle.
À la maison, en famille.
À la maison, en famille. Et ça me fait plaisir. Parfois sortir avec la famille. Aller vers la cité du fleuve, comme on dit.
Prendre de l'air.
Prendre de l'air, je crois que c'est important et ça déstresse.
Vous aimez le sport?
J'aime beaucoup le sport. J'aime le vélo.
Vous avez fait du cyclisme?
Je n'ai pas fait le cyclisme, mais j'aime beaucoup le vélo parce que ça me permet de faire un peu de la gymnastique.
Vous écoutez aussi la musique?
Ah, la musique, rarement. Mais de temps en temps, oui.
Mais c'est quel genre de musique que vous écoutez?
Oh, j'écoute beaucoup plus la musique religieuse. Je vous ai dit que je n'ai pas l'habitude de fréquenter les bars.
Ça n'empêche pas d'écouter la musique à la maison?
Non, ça ne m'empêche pas. Il y a un musicien parfois que j'écoute, des fois Kofi, Jibem Piana et Werason. Je les écoute de temps en temps quand il y a de la bonne musique.
Parmi les chansons ou les albums de Kofi, quelle est la chanson que vous aimez beaucoup écouter?
Sans inverse.
Pourquoi?
Je pense qu'il a bien chanté.
C'est la mélodie qui vous plaît ou bien ce sont les paroles?
Non, c'est la mélodie et les paroles aussi.
Willem, on a la chanson de Kofi, Sans inverse. Voilà. Merci Willem Lungamba de nous balancer la chanson Sans inverse de Kofi Olomide pour le plaisir de Maurice Chikuya.
Ibrahim Chapu, Pinga Laurent Lorenzo, Amaïk Balusa, Lucia Sassa.
Yeah.
Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Maurice Chikuya Kayembe, administrateur directeur général de l'Institut national des préparations professionnelles INPP. Monsieur Maurice Chikuya, quelle est la procédure à suivre pour une inscription à l'INPP?
La procédure à suivre, elle est tout à fait simple. C'est question seulement de manifester sa volonté pour pouvoir faire une formation, savoir lire et écrire, et avoir les aptitudes nécessaires pour apprendre. Je crois qu'il y a des textes de sélection que nous faisons, pas pour éliminer les gens, mais pour constituer des groupes homogènes, et parce qu'il y a des gens qui ont quand même un niveau de compréhension élevé, les autres qui sont très faibles. Il faut les regrouper selon leurs capacités d'adaptation, ce qui nous permet de recevoir les jeunes gens. Même vous, madame la journaliste, nous pouvons vous recevoir. Ce ne sont pas seulement les jeunes gens, même ceux qui sont dans l'emploi. Et il faut développer leurs compétences, assurer leur employabilité d'une manière permanente. Ça permet à ce que les gens puissent être rentables dans leur milieu professionnel. Parce qu'il faut savoir que ce qui nous pousse, et notre objectif premier, c'est de rentabiliser les entreprises par le capital investi via les ressources humaines. Donc, je crois que c'est important que nous puissions avoir les ressources humaines de qualité. Et pour cela, la formation, c'est tout au long de la vie.
On critique aujourd'hui l'éducation en RDC. Des enquêtes ont prouvé que le niveau de l'éducation a vraiment baissé. C'est vrai qu'on étudie, on suit des formations, on va dans des universités, mais sur le terrain, les gens ne sont pas compétents. Comment on peut expliquer cela?
On explique cela, il y a d'abord l'aspect sociologique. Et je crois que nous avons cultivé des mauvaises habitudes de la vie facile, de la une culture de jouissance. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a un temps pour tout. Et la jouissance, pour la plupart des cas, ne nous amène pas au bonheur. Donc les gens doivent travailler, comme on le dit, qu'il faut tailler dans les rocs. Et la facilité n'amène pas beaucoup de chances au développement. Et je crois que notre système d'enseignement ne devrait pas compter beaucoup plus sur le nombre de diplômes qu'on délivre à la fin des cycles, mais beaucoup plus sur les compétences qu'on donne à ces jeunes qui fréquentent notre système d'enseignement.
Mais c'est qu'on a l'impression que chez nous, c'est le nombre qui compte et pas la qualité qui doit sortir.
Oui, justement, il faut sortir. C'est une remarque qui est tout à fait pertinente, madame, mais il faut professionnaliser notre système d'enseignement. Il faudrait que nous puissions plus miser sur les compétences au lieu de viser sur des théories ou des palmarès où on multiplie des nombres de licenciés, de ceci, cela. Mais quand vous avez les messieurs en face de vous, vous ne vous rendez pas compte qu'il était et qu'il est licencié ou qu'il est je ne sais pas quoi là.
Ça, c'est un grand problème hein, qu'on a quand même.
Ce n'est pas un grand problème, mais je crois que.
C'est pas un grand problème.
C'est un problème, certes, mais pas un problème qui est insoluble parce que. Et même s'il y a faiblesse, mais il y a toujours parmi nos jeunes gens qui se distinguent.
Oui, il y en a qui se distinguent.
C'est ainsi que je vous dis, il y a toujours la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous face à son destin. Et quand vous allez dans une équipe, vous trouvez que tout le monde fait des loisirs et que si vous y allez aussi, c'est tout à fait normal qu'à la fin du compte, que vous ne vous retrouvez plus. Vous restez dans les loisirs éternels. Mais quand vous trouvez que, je vous ai dit ici que chez nous, je peux vous dire que quand moi j'ai terminé mes humanités en Bougimaï, et dès ma promotion, je suis le seul à avoir fait l'université. et avoir même fait des études post-universitaires. Vous comprenez? Donc, c'est une sélection naturelle. Donc, la vie appartient aux gens qui se battent. Donc, mais il ne faut pas rester, vous êtes journaliste, vous ne voulez pas vous améliorer, vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas vous adapter aux exigences modernes. C'est tout à fait normal.
Que
vous
devenez quand on veut, on peut.
Quand on veut, on peut, madame. Il n'y a pas de montagne insurmontable.
Alors, monsieur Maurice Chikuya, les cours, c'est dans quelle langue à l'INPP?
À l'INPP, le problème de cours, c'est tout à fait normal, comme nous avons la langue officielle qui est le français, mais nous nous adaptons à toutes les conditions possibles. Quand nous retrouvons devant une couche de la population qui ne sait pas parler français, s'il faut donner le cours en Chiluba, on le donnera. S'il faut donner le cours en Swahili, on le donnera. S'il faut le donner en Lingala, on le fera. Parce que une des difficultés de notre système d'enseignement, c'est que nous sommes sortis de notre langue maternelle. Et je crois que ça, c'est aussi une préoccupation majeure dans la réforme de l'enseignement. Il faudrait revoir aussi cela. Et quand quelqu'un étudie dans sa langue maternelle, il comprend beaucoup mieux que quand on apprend dans la langue étrangère. Peut-être les jeunes gens qui sont venus des familles aisées ou qui commencent avec le français dès le bas âge, ils peuvent s'en sortir. Mais ceux qui... écoutez, le papa ne connaît aucun mot français, la maman non plus, et vous prenez ce monsieur, il commence l'école avec le français, je crois que vous les mettez dans des conditions psychologiques assez difficiles.
Mais est-ce que ça ne va pas poser problème après lorsqu'il doit aller travailler? Il ne va pas aller travailler dans sa langue maternelle?
Non, écoutez, mais un technicien, je vous dis par exemple que nous avons des coopérants égyptiens et japonais qui sont chez nous. Mais vous trouverez qu'ils s'expriment beaucoup plus techniquement à l'aise dans leur langue maternelle qu'en français ou en anglais. Hein? Donc, je crois que c'est un problème. Vous demanderez à tout pédagogue, il vous dira que quand on étudie dans sa langue, on comprend vite et c'est mieux. Mais malheureusement, nous avons opté pour le système qui nous a été légué par le Belge. Faisons le chemin avec. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions non plus éviter à négliger beaucoup plus nos langues maternelles. C'est important dans le système éducatif.
Quelles sont les options qu'on retrouve à l'INPP
aujourd'hui? À l'INPP aujourd'hui, nous avons tous les métiers de base, en commençant par l'électronique. Vous avez aujourd'hui ce que vous faites ici, c'est ce que ça s'appelle les radiofréquences. Vous avez aussi la vidéofréquence, vous avez la maintenance des ordinateurs, vous avez la télécommunication. Quand vous allez en électricité, vous trouverez l'électricité industrielle, l'électricité des bâtiments. Quand vous allez en froid, vous trouverez le froid industriel et le froid domestique. Vous allez en mécanique automobile, vous trouverez l'électricité auto, vous trouverez les laboratoires diesel, et vous trouverez aussi en mécanique générale, tout ce qui est usinage de pièces, tournage, filetage, fraisage. Vous avez l'informatique avec tout ce qui est Companopoly, Excel, Internet, Old, Excel, toute la bureautique. Vous avez l'élaboration de projets à l'INPP.
Il y a beaucoup d'options.
Il y a beaucoup d'options. Nous sommes champions de toutes catégories.
Et les professeurs, ils sont recrutés sur place ou bien vous avez aussi des professeurs qui viennent de l'étranger?
Nous avons préféré que nous puissions développer les compétences internes. Donc, nous avons les Congolais qui ont l'expertise, qui ont les compétences. Et en tant qu'institution de formation, nous avons misé sur la formation de formateurs comme un de nos ambitieux programmes pour pouvoir développer les compétences de nos formateurs. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons les mal formés. Donc, si nous formons les autres, nous devons être nous-mêmes bien formés pour pouvoir partager cette expertise avec nos compatriotes.
Alors, les frais pour suivre la formation, pour être inscrit à l'INPP, sont à la portée de toutes les bourses?
Ils sont à la portée de toutes les bourses, d'autant plus que nos formations sont de type subventionné par les cotisations que les entreprises nous payent, ce qui nous permet d'avoir un coût social assez acceptable.
Maurice Chikuya, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot à tous ces Congolais qui nous suivent partout en RDC, dans votre Kasaï oriental natal, à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net.
Un mot à dire à tous nos compatriotes, c'est de dire de ne plus se décourager. Nous sommes un pays débattant. Je crois qu'un Congolais, quand il maîtrise bien son métier, il le fait agréablement très bien. Et nous pensons que notre rôle aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes d'aller vers les métiers, parce que nous pensons que c'est ça l'avenir du pays. Nous ne pouvons pas, pour carreler la maison, qu'on ait des étrangers, et si pour faire un petit travail, il faut que nous ayons l'expertise extérieure. Je crois qu'il faut compter d'abord sur nos propres compétences avant de penser à l'extérieur. Et ériger des murs de lamentation, ce n'est pas mon genre. Il faut que nous puissions pousser plus loin pour que nous puissions résoudre nos problèmes.
Maurice Chikuya, merci.
Merci, madame.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Maurice Chikuya Kayembe, administrateur directeur général de l'Institut national des préparations professionnelles INPP. Merci à Willem Lungamba et Sylvain Matundu qui étaient à la mise en onde. Au micro, Kelly Nkouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.
Merci.